Un monde d'inégalités avec Bertrand Badi.
Donc, merci d'être venu un dimanche et à l'heure du déjeuner pour entendre parler de choses que je crois fondamentales, mais qui ne sont pas forcément agréables à entendre. Nous avons publié aux éditions La Découverte, mon ami Dominique Vidal et moi-même, un ouvrage l'automne dernier, qui s'intitule « Un monde d'inégalités ». Et c'est bien des inégalités dans le monde que je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors, par quelle photo commencer ? J'ai tendance à vous dire peut-être que la plus grave des photos, et c'est celle que j'utiliserai en exergue de cette conférence, c'est que chaque année, 6 millions d'êtres humains meurent de faim. C'est-à-dire, mesdames et messieurs, que tous les jours, dans le monde, il y a l'équivalent de 8 attaques sur le World Trade Center. Il y a tous les jours, à cause de la faim dans le monde, l'équivalent de 8-11 septembre. Alors, on nous parle beaucoup du terrorisme, de la guerre au terrorisme, de la mobilisation mondiale contre le terrorisme, de l'union contre le terrorisme. Mais est-ce qu'on nous parle de l'union contre la faim ? Est-ce qu'on nous parle de la guerre contre la faim ? Est-ce que même ces questions sont jamais abordées dans les campagnes électorales, dans les discours politiques, dans les discours d'investiture ? Est-ce qu'on voit jamais un chef d'État assister à une réunion de la FAO, qui est l'organisme spécialisé dans la lutte pour la promotion de l'alimentation dans le monde ? Rien de tout ça. Eh bien voilà, c'est peut-être l'image qui symbolise à elle seule tout ce que je voulais vous dire. Derrière ces 6 millions de morts, qui sont économiquement très faciles à éviter, car vous savez que les statistiques de la FAO indiquent qu'avec 1 dollar par jour, on peut sauver un individu de l'état de détresse alimentaire. Donc multiplier 6 millions par 1 dollar et par 365 jours, le coût économique, mais le phénomène n'est pas seulement économique, hein, bien sûr, mais le coût économique pour arriver à une situation où tout le monde mangerait, sinon à sa faim, du moins conformément aux besoins de tout corps humain, serait une somme bien inférieure au coût annuel des transferts dans le football mondial. Le coût des transferts dans le football mondial, c'est 10 milliards de dollars par an. On a même du mal à imaginer. Et avec 1 milliard par an, déjà, on peut couvrir économiquement la détresse de ceux qui meurent de faim. D'ailleurs, pour vous montrer ma grande sympathie pour le football, j'ajouterai un autre exemple. Savez-vous que le budget annuel du Manchester United, je ne suis pas très fort là-dedans, mais il paraît que c'est une équipe importante de football, le budget annuel du Manchester United, c'est 1 milliard 100 millions de dollars. Le budget de la FAO, l'institution des Nations Unies spécialisée dans la lutte contre la faim, c'est 600 millions de dollars. Le seul Manchester dépense deux fois plus que toute l'organisation pour l'alimentation mondiale. Voilà, ça c'était mon apéritif personnel. Vous comprenez que derrière cette image, il y a cette question absolument déterminante, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, des inégalités dans le monde. Des inégalités dans le monde, c'est un sujet qui est complètement marginalisé. Étant professeur de sciences politiques, de relations internationales à Sciences Po Paris depuis déjà une cinquantaine... Non, j'exagère, je pas à ce point-là. 40 ans. Merci de réagir. C'était pour voir si vous aviez de la compassion. Eh bien, ça fait quand même 40 ans que j'enseigne la science politique. J'ai croisé très peu de livres sur les inégalités mondiales. C'est-à-dire, les inégalités mondiales connaissent aujourd'hui le sort que les inégalités nationales avaient au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on ne s'occupait pas des inégalités à l'intérieur des nations parce qu'on considérait que c'était un phénomène naturel. Les hommes et les femmes seraient nés inégaux et effectivement, en fonction de l'inégalité de leur capacité physique ou intellectuelle ou je ne sais quoi, il serait normal qu'ils n'atteignent pas tous les mêmes niveaux de richesse, de capacité sociale, de développement. Eh bien, ce discours, heureusement, jusqu'à il y a quelques semaines, jusqu'à ce que la droite revienne au pouvoir, ce discours était quand même moins tenu au niveau des nations. Il revient, c'est pas seulement une boutade, il revient. Mais au niveau international, il demeure ce discours. C'est-à-dire, quand il est question d'inégalité mondiale, quand on fait valoir les détresses au Sahel ou en Afrique centrale ou ailleurs dans le monde, on nous explique soit que c'est dû à une insuffisance de développement, terme pudique, et qu'il faut attendre que le développement fasse son effet, un peu comme on attend qu'une purge fasse son effet, n'est-ce pas ? Mais que de toute manière, il n'y a rien d'immédiat qui puisse être fait, sinon d'attendre. Ça, c'est la version aimable du discours tenu sur les inégalités mondiales. Mais vous avez d'autres discours. Vous avez carrément le discours de la barbarie, c'est-à-dire le monde civilisé a atteint un niveau de développement économique et social qui tient à sa culture et à son histoire, les autres sont encore dans un état de barbarie dont on ne sait pas quand ils pourront sortir. La barbarie, l'inculture sont souvent utilisées comme des explications normales des inégalités mondiales. Ou alors, et c'est un versant peut-être plus aimable, mais finalement qui a connu très vite ses limites, on entend un discours caritatif. Le discours caritatif consistant à dire « oui, il y a des inégalités, il faut les aider, les aider ». C'est-à-dire, il faudrait faire dans le monde ce que nous faisons quand nous prenons le métro, c'est-à-dire cette pièce d'un euro que pour nous faire valoir, nous donnons aux quêteurs à l'entrée du métro ou à l'entrée d'un grand magasin. Est-ce là la solution ? Évidemment non. Et puis vous avez eu, ceux de ma génération peut-être s'en souviennent, un autre discours qui s'appelle le discours cartiériste, venu du journaliste français Raymond Cartier, qui expliquait que eux c'est eux et nous c'est nous, que nous avons suffisamment de problèmes à régler chez nous pour ne pas avoir à prendre en charge, comme disait quelqu'un d'autre que je nommerai pas par charité, la misère du monde. C'est-à-dire cette espèce d'égoïsme méthodologique, charité bien ordonnée commence par soi-même, qui est d'ailleurs un discours absurde, je vous le montrerai tout à l'heure, car nous ne sommes plus dans ce monde fermé. Nous sommes dans un monde de communication, nous sommes dans un monde de circulation, nous sommes dans un monde d'interdépendance. L'indifférence à l'égard de l'autre qui souffre ou qui n'est pas doté, un jour, et je crois que ce jour est venu, nous retombera dessus, sous forme de violences inédites, sous forme de mouvements de population incontrôlables. C'est-à-dire que il est temps de comprendre que nous ne sommes plus au XIXe siècle, nous sommes à une époque où l'inégalité de l'autre lointain, en Afrique ou en Asie, nous frappe autant que l'inégalité des classes dangereuses, comme on disait au XIXe siècle, pouvait gêner le bourgeois lorsque on amorçait la révolution industrielle. Alors, vous voyez comment nous sommes mal outillés pour faire face aux questions des inégalités mondiales. Alors, avant de vous décrire ces inégalités mondiales, mais je ne voudrais pas vous assommer de statistiques, et avant de traiter l'une de ces inégalités les plus criantes, celle que j'annonçais en ouverture, l'inégalité alimentaire, je voudrais quand même regarder avec vous comment le monde s'est comporté. Je vous disais qu'on a du mal à penser l'inégalité par rapport aux autres lointains. Les choses ont quand même commencé à bouger. C'est-à-dire, ne tombons pas, ce qui est un travers, à mon avis, critiquable, dans le discours facile, rien n'est fait, ils sont tous nuls, etc. Non, il y a eu des progrès, et nous le verrons que même ces progrès aboutissent à des débuts de résultats qui font que la planète est peut-être moins, comment dirais-je, frappée par la misère qu'elle ne l'était il y a 50 ans. Mais je vous montrerai qu'il faut être très prudent dans ce genre d'affirmation. Enfin, ceci dit, je ne veux quand même pas complètement mettre votre morale à zéro. Donc il y a quand même des petites lueurs sur lesquelles il faudra travailler tout à l'heure. Ces lueurs, il faut bien comprendre que, hélas, elles ne sont jamais venues de chez nous. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est comment ce Sud souffrant a, contrairement à ce qu'on dit généralement, peu à peu pris ses inégalités en main. Vous savez, le Sud, il a toujours été là, mais on ne le voyait pas. La vie internationale, dans notre histoire européenne, elle s'est incroyablement, mesdames et messieurs, incroyablement limitée à l'Europe. Au XIXe siècle, quand on était diplomate, on ne voyait pas plus loin qu'au sud les Balkans, à l'est l'Oural, au nord l'Angleterre et à l'ouest le Grand Large. Le reste pourtant avait des milliers d'années d'histoire. 4000 ans d'histoire chinoise, mais à part le commerce de l'opium, on n'avait aucun échange avec la Chine. Quant au Sud, le Sud y bougeait dès les lendemains de la Première Guerre mondiale. Dès les lendemains de la Première Guerre mondiale, au Caire, en 1926, premier congrès pan-islamique. J'ai dit islamique, je n'ai pas dit islamiste. Premier congrès pan-islamique. Qui en parlait ici? Qui voyez venir l'affirmation d'une population, d'une culture, d'une histoire, d'une économie, de sociétés qui étaient extérieures aux nôtres. J'ai été regardé dans la presse européenne, dans la presse française, ce qu'on écrivait sur cette première conférence pan-islamique en 1926. Vous savez ce que j'ai trouvé? Rien. Bravo. Ah, il y a quelqu'un à qui je l'ai dit, déjà. Bon, voilà. Mais je vous donne l'exemple du panislamisme, mais prenons comme exemple aussi le panafricanisme. Premier congrès panafricain au monde, 1900. Dès 1900, l'Afrique a pris conscience d'elle-même. À l'initiative, d'ailleurs, c'est intéressant de le souligner, des Noirs américains, des Haïtiens, des Jamaïcains, et puis, très vite, des élites africaines. Et dès 1919, premier congrès panasiatique qui se tenait au Japon, mais qui réunissait Chinois, Vietnamiens, Indiens, et ensuite, les conférences suivantes se tiendront, notamment en Inde, en 1930. C'est dire que tout ceci était en mouvement. Tout ceci était en mouvement, mais tout ceci n'a eu absolument aucun impact. L'idée même de coopération internationale, l'idée de gouvernance mondiale, n'était pas prise en compte. Prenez la Charte des Nations Unies, 1945, évidemment 51 États à l'époque aux Nations Unies, 51 États dont trois quarts étaient européens, les autres latino-américains, si proches de l'Europe, n'est-ce pas ? De l'Afrique aux Nations Unies en 1945, il n'y avait que deux États et qui n'osaient à peine prendre la parole. Donc, si vous regardez la Charte des Nations Unies, qui est encore valable aujourd'hui, elle est encore valable aujourd'hui, il n'est jamais question de développement. Il n'est jamais question des inégalités mondiales. Et à côté du Conseil de sécurité, on a créé un Conseil économique et social. Alors, vous connaissez le Conseil économique et social des Nations Unies, les COSOC ? Moi, j'y ai emmené mes étudiants une fois, quand ils étaient en stage avec moi à New York. C'est une grande salle. Ah oui, c'est une grande salle. Une grande salle, plus grande que celle-ci. Et je suis entré avec mes étudiants pour regarder les débats, quand même, la vie économique et sociale du monde. Quelle n'a pas été ma frayeur de voir qu'il y avait 12 personnes dans la salle. Je les ai comptées. J'ai vu de là où j'étais que parmi ces 12, il y en avait 4 qui faisaient des sudoku ou des mots croisés. J'en ai vu 2 en train de dormir. Il y en avait un, manifestement, qui s'était trompé de salle, mais qui n'osait pas sortir. Et le seul qui était intéressé à ce qu'il se disait, c'est celui qui parlait. C'est ça, la question économique et sociale aux Nations Unies aujourd'hui. By the way, ça fait mieux quand c'est dit en anglais. À propos, vous savez combien de fois le Conseil de sécurité, j'ai dit sécurité, combien de fois le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est saisi de questions sociales ? Combien de fois il s'est saisi des questions alimentaires qui font 6 millions de morts par an ? 0. Pas une fois. Je vous signale qu'on est en ce moment à 2260 résolutions du Conseil de sécurité. Combien sur les questions sanitaires ? 2. Une en 2000. Pour savoir comment protéger les casques bleus du risque de sida, pas folle la guêpe, et la dernière récemment, la deuxième, la seconde, la dernière récemment, sur Ebola, parce qu'on s'est aperçu qu'Ebola, ça voyageait, c'était contagieux, ça pouvait arriver chez nous. Les maladies qui n'arrivent pas chez nous, ça n'a pas d'importance. Vous savez, c'est comme le moustique Zika, voilà. Le tout, c'est qu'on ne soit pas piqué. Quel fol espoir de ne pas être piqué. Eh bien, la révolution, elle a quand même été faite aux Nations Unies par ce formidable processus qu'a été la décolonisation. Mais, mesdames et messieurs, peut-être en discuterons-nous tout à l'heure, si j'arrive à m'arrêter, ce qui n'est pas gagné, peut-être en discuterons-nous tout à l'heure. Hélas, il faut quand même bien admettre que nous sommes entrés dans un monde où ces questions économiques et sociales restent désespérément à la porte et où la décolonisation a été totalement ratée. Les grands problèmes liés aux inégalités mondiales tiennent essentiellement au fait que nous avons raté, que ce monde a raté le processus de décolonisation en créant de faux États et en ne sachant pas insérer ces États dans un jeu qui soit autre que notre propre jeu. La pression du Sud s'est fait sentir dès 1964 avec la création de la première CNUSED, Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement. C'était une époque où l'Afrique représentait 1,5% du commerce mondial. Et les 50 délégués africains ont dit « Comment voulez-vous que nous, on nous en sorte si tout le continent n'est fait que 1,5% du commerce mondial ?» Donc on a créé cette conférence pour activer le commerce mondial. Ça, c'était en 1964. À l'époque, l'Afrique, c'était 1,5% du commerce mondial. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est 2% du commerce mondial. Voyez comment les inégalités ont disparu. L'année suivante, rendons hommage à la création peut-être de la plus belle institution des Nations Unies, pour laquelle j'ai énormément de respect, qui est le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui pour la première fois fait entrer la question du développement dans l'enceinte des Nations Unies. Et effectivement, là, le résultat est assez remarquable, dans la mesure où ce PNUD va d'abord développer des agences un peu partout dans les pays du Sud, va donc ainsi coordonner le travail d'aide publique au développement et va surtout avoir deux bonnes idées. La première bonne idée, c'est en 1990, tiens, c'est l'année de mon mariage, ça vous est complètement égal. En 1990, le PNUD crée l'indice de développement humain, IDH, qui est une sorte de fusion entre le revenu par habitant, l'espérance de vie et le taux de scolarisation. C'est-à-dire l'indice de développement humain nous permet de voir le niveau de développement humain d'un État, donc l'état de sa sécurité sanitaire, alimentaire et économique, en gros. Bon, ça, c'est un grand progrès. Et 4 ans après, en 1994, paraît le grand rapport que le PNUD a publié sur la question, qui s'appelle le rapport sur le développement humain, dans lequel il nous dit, alors voilà, c'est peut-être la phrase la plus importante de ma conférence, aujourd'hui, les questions militaires et stratégiques ne sont plus le problème numéro un de sécurité mondiale. La sécurité mondiale, aujourd'hui, dépend de 7 sœurs. Alors attention, il ne faut pas que j'en oublie. Sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, sécurité environnementale, sécurité individuelle, c'est-à-dire les droits de l'homme, sécurité économique, sécurité culturelle, c'est-à-dire respect des minorités, et enfin, sécurité économique. Je l'ai dit, sécurité économique. Alors, c'est sécurité politique, c'est-à-dire stabilité de l'État. Ces 7 sécurités sont véritablement les grands objectifs qui peuvent assurer le développement. En même temps, se réunit en l'an 2000 le fameux sommet du millénaire qui adopte les objectifs du millénaire pour le développement, dans lequel on invite les États à atteindre 1% de leur PIB, les États développés, les États du Nord, qu'on invite à monter la part qu'ils consacrent à l'aide publique au développement à 1%. Pas beaucoup, 1%. Vous savez à combien on en est en France ? 0,31. Ça a même baissé depuis le précédent quinquennat. On était à 0,35, on tombe à 0,31. Il faut chercher quelques pays scandinaves et le Canada pour retrouver à peu près le niveau prévu de 1%. Donc, vous voyez, tout ça n'est pas très encourageant. Alors, comment mesurer maintenant cette inégalité ? C'est quand même le moment de vous le dire. Alors, quand on parle d'inégalité, il faut distinguer 3 types déjà d'inégalités. Les inégalités de richesse, les inégalités de ressources et les inégalités vécues, ressenties. Vous savez, comme dans la météo, vous avez la température et la température ressentie. Ben, les inégalités, c'est un peu ça aussi. Parce que les inégalités sont aussi ressenties en fonction du contexte qui est le vôtre. Alors, les inégalités de richesse. D'une part, il est facile de démontrer qu'elles sont fabuleuses. Vous savez que l'ONG britannique Oxfam a mesuré, mesdames et messieurs, les inégalités de richesse dans le monde et a établi que 1% de la population mondiale, 1% de la population mondiale disposait de 50% des richesses mondiales. 1% de la population mondiale contrôle, possède 50% des richesses mondiales. Et imaginez, mesdames et messieurs, que 80, c'est moins que ce qu'il y a le nombre de personnes dans la salle, 80 personnes à elles seules disposent d'une richesse égale à ce que disposent les 3 milliards et demi les moins riches du monde, c'est-à-dire la moitié de la population la moitié la moins favorisée de la population mondiale. 3 milliards et demi d'êtres humains disposent l'équivalent de ce dont disposent 80 bons hommes ou bonnes dames. Voilà. Ça, je crois quand même que c'est des statistiques qui n'ont pas besoin de commentaires. Les pays du Nord, c'est 16% de la population mondiale. Pays du Nord, l'hémisphère Nord, c'est-à-dire Europe, Amérique du Nord, Japon, 16% de la population mondiale, 70% des richesses mondiales. 70%. Mais en même temps, il faut tenir les deux bouts de la chaîne, si vous voulez, on assiste à une diminution de la pauvreté dans le monde. En gros, et je vais vous l'expliquer, ça veut dire que les pauvres sont un peu moins pauvres, mais que les riches sont beaucoup plus riches. C'est-à-dire tout le monde monte, mais à une vitesse qui n'est pas identique, si bien que nous sommes dans un monde, voilà le résumé statistique, où l'appauvrissement est moindre, mais où les inégalités se renforcent. D'accord ? Nous sommes dans un monde où on peut dire à peu près que début des années 80, vous aviez 1 milliard 900 millions d'êtres humains qui avaient pour revenu moins $1,25 par jour, ce qui est le seuil de grande pauvreté. Ils ne sont plus qu'un milliard aujourd'hui. Enfin, quel cynisme de dire ils ne sont plus qu'un milliard. Il y en a un milliard, mais il y en avait 1 milliard 900 millions il y a encore un tiers de siècle, il y a 30 ans. L'autre chose, alors à partir de ça, il y a trois grandes choses qu'il faut comprendre. C'est que, premièrement, les inégalités qui se renforcent globalement se renforcent aujourd'hui aussi de plus en plus à l'intérieur des nations. C'est-à-dire que l'indice Gini, comme on dit dans notre métier, qui calcule les inégalités, montre que ces inégalités s'aggravent globalement dans le monde, mais aussi à l'intérieur de chacun des 193 États du monde. Et ce qui est particulièrement préoccupant, mesdames et messieurs, c'est que ces inégalités se renforcent de manière très significative à l'intérieur des pays développés. C'est-à-dire que nous assistons ainsi à la croissance préoccupante de pauvres au sein des pays riches. Et j'aurais même tendance à dire que plus le pays en question s'enrichit de manière rapide, plus la pauvreté s'y accélère. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Allemagne, dont on vante tellement le modèle économique, mais dont on constate que la pauvreté ne cesse d'augmenter. Et c'est vrai au Royaume-Uni, celui-là qui veut nous quitter pour pouvoir être tout seul plus riche que les autres. Ce qui veut dire que la question de la pauvreté est de moins en moins une question nord-sud et tend à devenir un mix de nord-sud et de nord-nord. Ce qui veut dire que, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est un point très important, les espaces de solidarité entre pauvres du nord et pauvres du sud ne cesse de se renforcer. Ce qui m'amène aussi à vous dire, et c'est peut-être là que nous touchons l'aspect le plus sensible de notre sujet, nous sommes non seulement dans un monde où les inégalités se renforcent, mais nous sommes également dans un monde où les inégalités sont de plus en plus visibles. Mesdames et messieurs, Autrefois, quand j'étais un enfant, il n'y a pas si longtemps, autrefois, le miséreux mourait dans l'ignorance de la richesse et du confort. Mourir de faim au fin fond de la brousse en Afrique, c'était mourir comme par résignation, par fatalisme, parce que celui qui agonisait de sa pauvreté ignorait totalement les espaces de richesse. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Aujourd'hui, plus personne n'ignore du reste du monde. Nous sommes dans un monde où le pauvre voit le riche. Il le voit soit parce que les moyens de communication sont développés, et même dans les bidonvilles de Laos ou de Karachi, il y a des antennes qui permettent de capter les images de télévision. Mais il le voit aussi par effet de proximité, parce que, phénomène très important pour nous, la pauvreté s'urbanise. Avec cette urbanisation formidable qui caractérise les pays du Sud, qui marque les pays du Sud, qui transforme donc la sociologie des pays du Sud, et qui peu à peu nous conduit vers un monde de proximité. Le pauvre est proche du riche, il le voit, il le croise tous les jours dans la rue. Pour ces raisons de visibilité des inégalités, les inégalités deviennent aujourd'hui un vecteur de mobilisation politique et de protestation. Et viennent faire le beau jour de tous les entrepreneurs de violence, organisations djihadistes de toute nature, Al-Qaïda, ACPA, ACMI et Daesh et tout ce qu'il en suit. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans un monde où la misère est directement convertible en mobilisation politique. Mais cette mobilisation politique, elle a une cible. Celui qui est réputé riche et celui qui est réputé responsable de la richesse. Et vous comprenez bien comment les discours djihadistes font tellement fortune à partir du moment où ils apportent tout préparé, la cible naturelle de toutes les revendications qui portent contre la misère. Mais vous comprenez aussi, mesdames et messieurs, qu'à cause de ça, les guerres changent de nature. Vous comprenez qu'à cause de cela, maintenant, la guerre répond davantage à des effets de pauvreté qu'à des effets de puissance. Autrefois, la guerre, c'était une compétition entre puissants. Aujourd'hui, la guerre, c'est le résultat de ces inégalités, de ces décompositions économiques, sociales et politiques qui dérivent de ces inégalités. Mais comme je vous disais tout à l'heure que ces inégalités transpercent le monde, qu'on la retrouve autant au nord qu'au sud, mais alors comment s'étonner des phénomènes de conversion, des phénomènes de djihadisme qui frappent les sociétés du Nord, qui trouvent ainsi de quoi nourrir leurs imaginaires. Les imaginaires aujourd'hui se mondialisent comme le reste. Et la mondialisation des imaginaires chez des jeunes qui ne parviennent pas à s'intégrer dans la société, c'est quoi ? Eh bien, c'est de trouver une proximité, une sympathie, une solidarité avec ces mouvements orchestrés par la misère dans les pays du Sud. Voilà comment se transforme notre paysage. Et la guerre devient, comble de l'ironie, la guerre devient aujourd'hui le débouché naturel de la pauvreté. Quels sont les pays les plus mal classés en termes d'IDH ? Ah, je vais vous dire. Somalie, Mali, Niger, Sierra Leone, Libéria, République démocratique du Congo. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça ? Et l'Asie ? L'Asie est mieux placée. Mais quels sont les pays asiatiques les moins bien placés en matière d'IDH ? Tiens, tiens, le Yémen et l'Afghanistan. Ça ne vous dit pas quelque chose, tout ça ? Et réfléchissez-y un peu. Vous êtes un jeune Nigérien de 15 ans, 16 ans, dans un pays où 70% de la population a moins de 30 ans, où il n'y a pas d'emploi, vous avez 15 ans, vous êtes Nigérien, qu'est-ce que vous avez pour assurer votre avenir ? Vous avez deux voies. Soit migrer, avec le risque de finir au fond de la Méditerranée, et si par miracle vous y échappez, d'essuyer les quolibets des populations européennes, ou de vous faire saisir vos bijoux, vos quelques maigres attributs, par la couronne danoise. Ça, c'est l'option light. Ou alors, il vous reste une autre option encore, c'est de devenir un enfant soldat. Mesdames et messieurs, il y a dans le monde entre 500 et 600 000 enfants soldats. Et qu'est-ce que c'est qu'un enfant soldat ? Eh bien, c'est un gamin de 15 ans qui n'a pas de quoi bouffer, qui n'a pas de quoi se loger, qui n'a pas de quoi se vêtir, qui est méprisé, rejeté par tout le monde. Bah, il devient agent d'une milice, il est vêtu, il est nourri, il est mobilisé, et comble du cynisme et du dérisoire, il a une kalachnikov sur l'épaule, ce qui lui donne le sentiment terrible d'être important, d'exister dans le monde tel qu'il est. Voilà. Et puis, mesdames et messieurs, il n'y a pas que des garçons soldats, il y a de plus en plus des jeunes filles soldats. Et en Afrique, les jeunes filles soldats, c'est des pauvres gamines de 13-14 ans, violées par les miliciens, donc rejetées de leur famille, et qui, pour survivre, n'ont pas d'autre choix que de s'engager. Et vous voyez ce que ça veut dire quand on est une jeune fille, de s'engager dans une milice, et vous voyez le genre de travail que vous aurez à y faire. Voilà notre monde d'inégalité. Est-ce que vous croyez que ça se combat par les armes ? En faisant sauter la Légion sur les pays concernés, est-ce que vous croyez qu'un plan d'armement atomique permet de résoudre ces questions et d'arrêter ces guerres ? Non, ça les alimente. Alors, ça, c'est les inégalités de richesse. Deux mots quand même sur les deux autres inégalités. Et c'est là tout un problème. C'est que les inégalités de richesse ne correspondent pas aux inégalités de ressources. C'est-à-dire, vous pouvez être riche, c'est-à-dire avoir un PIB élevé et avoir peu de ressources dans votre sous-sol. Comme vous pouvez être très pauvre et avoir beaucoup de ressources dans votre sous-sol. Alors, quand vous êtes très pauvre et que vous avez beaucoup de ressources dans votre sous-sol, ce qui est l'ordinaire des sociétés africaines, alors là, évidemment, c'est tout trouvé pour les pays du Nord. On vient s'installer chez vous et on vous pille. Bon, je ne développerai pas. Puis vous avez une situation intermédiaire où vous êtes tellement riche de votre sous-sol que cela vous donne une rente qui permet à l'élite de se reproduire de manière opulente et de financer le Paris Saint-Germain que votre équipe va rencontrer ce soir, je crois. Mais évidemment, ça n'assure en rien le développement économique. Vous savez que l'Arabie Saoudite est un pays qui est très mal classé au niveau des IDH, des indices de développement humain. Paradoxe du paradoxe dans le paradoxe. Et quand vous avez une tension trop forte entre inégalité des richesses et inégalité des ressources, eh ben paf, ça fait boum et ça fait la guerre. Je voudrais juste dire un mot sur le troisième aspect qui est les inégalités ressenties. C'est-à-dire que ne croyez surtout pas, comme vous pourriez le faire en écoutant mes statistiques, que l'économie gouverne la pauvreté, c'est beaucoup, ou la richesse. C'est en réalité beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, l'inégalité sexuelle est un phénomène terrible que l'on n'a pas suffisamment mis en évidence. C'est-à-dire que s'il y a à peu près dans le monde autant de femmes que d'hommes, c'est-à-dire 3,5 milliards à peu près, 70% des plus pauvres dans le monde sont des femmes. C'est-à-dire qu'à compétence égale, à capacité égale, à localisation égale, une femme a trois fois moins de chances de pouvoir avoir un statut égal à celui d'un homme. Donc l'inégalité sexuelle qui s'alimente à l'histoire, à la culture, à la religion, à beaucoup de choses, en réalité, vient déjà donner un profil tout à fait différent de ce que j'ai dit. Autre question qu'il faut avoir bien en tête, c'est l'inégalité en matière d'habitat. Et là, la communauté internationale travaille très peu sur ces questions. Il y a eu une conférence à Istanbul en 1996 sur l'habitat, où on a constaté pieusement qu'il y avait 1 milliard de non-logés dans le monde. Je n'ai pas dit de mal-logés, de non-logés. Bon, puis une fois que la photo de famille a été prise entre les délégations qui s'étaient réunies, et bien les gens se sont séparés et sont allés dans le Hilton de la ville, qui dans l'Intercontinental, qui dans le Sheraton, qui directement à l'aéroport. Bon. Je vous signale ce point parce que les institutions internationales, hélas, travaillent très très peu sur ces questions. Alors, j'avais dit que je vous parlerais de l'alimentation, mais vous allez m'engueuler parce que j'ai épuisé mon temps. Je voudrais quand même juste vous dire 2-3 petites choses en matière d'alimentation, mais dans la conversation que nous avons eue, on en a déjà beaucoup parlé. Alors, ce qui est intéressant pour l'alimentation, c'est que depuis que je fais ce métier, quarantaine d'années, on s'est mis d'accord sur ce chiffre tout à l'heure, le nombre de personnes qui souffrent de la faim n'a pas bougé. 800 millions. Seulement, la population mondiale a presque doublé. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est le côté court et le côté jardin. Le côté jardin, le côté souriant, sympathique, ensoleillé, c'est que, du coup, la proportion des personnes qui souffrent de faim a diminué de moitié. Ce qui réjouit un certain nombre d'organisations internationales, notamment le PNUD et la FAO, qui ont beaucoup travaillé pour cela. Mais nous restons toujours au niveau incompressible des 800 millions. C'est-à-dire nous n'avons pas réussi à... C'est même un tout petit peu plus de 800, c'est 820 millions. On n'a pas réussi à faire baisser. À un moment, quand ça allait très mal sur notamment... Le marché des prix des denrées premières, on est même monté à 1 milliard dans l'indifférence générale. C'était en novembre 2009, sommet de la FAO. 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim. Personne n'a relevé. Ce jour-là, il y avait je ne sais pas quelle rencontre de football. Donc, tout le reste a été éclipsé. Donc, ça veut dire quand même que l'effort qui reste à faire est absolument gigantesque. Je voudrais juste vous dire, de manière à ce que maintenant nous puissions engager la discussion, c'est que ceux qui restent, ce sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on retrouve, à travers la question de l'alimentation et de l'inégalité devant l'alimentation, la question économique et des inégalités économiques. Le gros problème de la faim dans le monde, c'est que dans... la catégorie des plus pauvres. L'alimentation représente 90% du budget du foyer. C'est-à-dire que la part que les plus pauvres consacrent à l'alimentation ne peut en aucun cas être augmentée. Résultat, si les prix augmentent, qu'est-ce que vous faites ? J'en ai parlé à monsieur de la Palice qui était d'accord avec moi. Ben, vous mangez moins. C'est-à-dire qu'il y a aucune élasticité à ce niveau-là. Deuxième élément, c'est que vous pourriez dire, mais dans ce cas-là, tout dépend du cours et de l'évolution du cours des denrées premières. C'est vrai. Et je vous parlais tout à l'heure de 2009. En 2009, en 2 semaines, le prix du riz a augmenté de 25% par des effets spéculatifs. Uniquement spéculatifs. Bon. C'est ce qui a fait grimper de 200 millions le nombre de personnes qui souffraient de faim. Mais le paradoxe, c'est que lorsque les prix baissent, à ce moment-là, évidemment, les familles peuvent s'alimenter plus facilement, ça c'est une évidence, mais en même temps, les agriculteurs, les paysans qui sont les premiers frappés par la baisse des prix, c'est la petite paysannerie du Sud qui, à ce moment-là, crève la faim et est obligé d'abandonner. D'où ces mouvements de migration des populations rurales vers les villes et la disparition de l'agriculture locale. La disparition de l'agriculture locale, mesdames et messieurs, c'est une catastrophe. Car, effectivement, dans ce mouvement d'urbanisation que je décrivais tout à l'heure et de développement global, seul le maintien d'une agriculture de proximité peut assurer un minimum de sécurité alimentaire. Le paradoxe, c'est que quand les prix baissent trop vite, on ne peut plus maintenir cette agriculture de proximité, on lui substitue une grande agriculture industrielle globale, avec effectivement les effets de renchérissement qui, à terme, viennent en dériver. Donc on est dans une situation là qu'il convient de dénoncer. De même, il faut voir que l'évolution de la question écologique pèse gravement sur la sécurité alimentaire. Mais il y a une chose qu'on oublie souvent de dire, c'est que le réchauffement climatique apporte des effets agricoles bénéfiques au nord et néfastes au sud. C'est-à-dire que le réchauffement climatique a libéré de nouvelles terres cultivables au Canada, en Russie, dans les pays du nord, par des faits de dégel, si vous voulez. Alors qu'au sud, savez-vous que la désertification au sud augmente, avance de 10 cm par heure. Chaque heure, la désertification bouffe 10 cm de plus. Donc, autant de surface retirée à la culture. Et dernière petite chose quand même que je voudrais souligner, et après on discute, parce que ça me paraît très important, c'est que nous sommes dans un monde où, très 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 important comme phénomène, les pays du Nord n'ont pas suffisamment de surface cultivable pour nourrir des populations en excès alimentaire. Alors je vais vous donner quelques chiffres. La France, pour subvenir à la consommation des Français, c'est-à-dire de nous, a besoin de 1,6 sa terre cultivable. C'est-à-dire, il faut multiplier par 1,6 la surface cultivable, c'est-à-dire le 0,6, ou aller le chercher ailleurs. Les États-Unis, 1,9. Le Japon, 7,1. La Chine, 2,5. Ce qui veut dire deux choses. Premièrement, nous sommes au Nord en surconsommation. Et la principale cause de l'insécurité alimentaire, c'est que nous bouffons trop. Alors, si je m'adresse à des Français, ils apprendront qu'au moment de l'extrême onction, au moment de quitter ce monde, vous aurez mangé 7 bœufs, 33 cochons, 9 chèvres, 9 moutons, 60 lapins, 1300 poulets. Pensez-y au moment de rendre l'âme à l'éternel. Voilà. Eh bien, outre que c'est pas bon pour votre santé, outre que c'est malheureux pour ces pauvres bêtes, ceci revient à capter toute la ressource végétale dont on a besoin pour faire manger, subvenir aux besoins alimentaires du cheptel. C'est autant de matières agricoles détournées des pays du Sud, notamment le soja. La crise du soja est terrible parce que le soja est de plus en plus envoyé au Nord pour alimenter les bêtes que vous allez manger et donc aggrave l'insécurité alimentaire des pays du Sud. Deuxièmement, il ne faut pas se gêner. Si on n'a plus assez de terre, on va prendre la terre des autres. La Chine s'est offert 4 milliards et demi d'hectares hors de ses frontières. Les États-Unis, 4 millions. Oui, 4 millions et demi d'hectares pour la Chine. Les États-Unis, 3 200 000. La Corée, 2 300 000. L'Arabie Saoudite, 2 100 000. Et maintenant, ce sont les entreprises qui s'y mettent. Daewoo a voulu acheter à Madagascar 1 300 000 hectares. Rien de plus que le tiers des surfaces cultivables à Madagascar. Ça a provoqué une révolution. Et c'est ainsi qu'est parti le président Ravalomanana. Mais, alors, fermez les micros, fermez l'enregistrement, Bolloré. Bolloré est en train de faire un procès à quelqu'un qui a dit que par l'intermédiaire d'une société financière écran, il rachetait à tour de bras des terres en Afrique. Donc c'est sûrement faux. Je veux pas de procès, vous comprenez. Merci, mesdames et messieurs, merci.
Si vous avez des questions, il y a un micro que je fais circuler.
Merci pour ce tableau désolant. Mais il y a une chose dont vous n'avez pas parlé.
C'est plus encore.
Oui, enfin bon. La responsabilité du capitalisme financier. Vous avez terminé sur Bolloré. Mais le capitalisme financier, quel est son rôle dans ces inégalités ? Merci.
Mais monsieur, je pense que vous avez trouvé son fantôme derrière chacune de mes phrases. Lorsque je commençais par la photo Oxfam de la distribution des richesses, il était là. Lorsque j'ai expliqué la formidable inégalité des ressources dans le monde, il était là. Lorsque je vous ai dit que la cause première de l'insécurité alimentaire et de la famine dans le Sud, c'était la spéculation sur les denrées premières, et que j'ai évoqué la spéculation sur le riz, d'où croyez-vous que vienne cette spéculation ? Effectivement, elle vient de ce capitalisme financier. Il ne faut pas oublier, et je vous remercie de me donner l'occasion de le dire clairement, que cet ennemi qui n'a pas de figure, cet ennemi invisible, cet ennemi, etc., il ne faut quand même pas oublier qu'il s'est emparé de la question alimentaire. Il s'est emparé totalement de la question alimentaire, qui est de moins en moins une question sociale internationale et de plus en plus une question financière internationale. Et donc, effectivement, la survie de la sécurité alimentaire dans le monde dépend des méandres du capitalisme financier. Quand celui-ci spécule, c'est évidemment les populations qui en font les frais, mais surtout, si nous allons, comme c'est absolument certain, vous savez, c'est comme le tremblement de terre à San Francisco, vers une crise financière majeure, elle va avoir lieu, on ne sait pas quand, mais elle va avoir lieu. Eh bien, qui va être la première victime ? Ce n'est pas les petits actionnaires ou les petits rentiers, n'est-ce pas, que nous sommes tous plus ou moins. C'est d'abord, effectivement, les populations pauvres. Le propre du capitalisme financier, c'est qu'il ne peut pas entrer la pauvreté comme paramètre. Au contraire, la pauvreté peut devenir une source d'enrichissement dès lors qu'on sait bien la gérer. Donc, bien sûr, vous avez tout à fait raison, c'est la variable première. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je n'ai pas prononcé le nom de Malthus, il n'y a pas de problème démographique en matière d'alimentation, il n'y a que des problèmes économiques, et vous avez raison, derrière le problème économique, c'est un problème financier.
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Merci pour ce brillant exposé. Dans cette même salle, j'ai écouté, il y a un jour ou deux, un tenant de la politique de la décroissance, le revenu inconditionnel. Simplement, je voudrais, sur la décroissance comme philosophie politique, elle repose un certain nombre de questions morales et éthiques. On prenait un certain nombre de valeurs, la sobriété, l'émancipation, le partage. Quel est votre point de vue à vous, en tant qu'universitaire, sur ces théories de la décroissance ?
Alors, d'abord, je dois dire très modestement, mais très honnêtement, que je ne suis pas économiste, je suis politiste. Quand vous demandez à un neurologue ce qu'il pense des corps aux pieds, il ne répond pas. Je me placerai dans cette posture méthodologique à laquelle, de par mon métier, je ne peux être qu'attaché. Donc, au risque de vous décevoir, je ne ferai pas de dissertation sur un sujet que je ne maîtrise pas. Maintenant, heureusement, les sciences sociales sont interdépendantes les unes des autres. Les phénomènes de décroissance, c'est un peu comme à propos du capitalisme financier tout à l'heure, ils étaient sous-jacents dans tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire la nécessité de maîtriser la consommation. Maîtriser la consommation, d'ailleurs, ça ne veut pas dire faire baisser la consommation. Moi, même si je ne suis pas économiste, je reste un adepte quand même de la politique de la demande. Mais il y a un rééquilibrage de la consommation qui est absolument indispensable. Les phénomènes de surconsommation ne sont jamais pointés. Je vous ai donné, me semble-t-il, un bel exemple des effets dévastateurs de surconsommation alimentaire dans les pays du Nord et en particulier de surconsommation de viande. Vraiment, si vous voulez faire un petit pas à l'humanité, mangez de la viande une fois par semaine et pas plus. Voilà. Et encore, prenez pas de gros morceaux. Ce problème de la surconsommation, bon, je sais que pour les éleveurs, c'est dramatique d'entendre dire des choses comme ça, mais nous devons quand même faire l'effort d'arriver à une situation de rééquilibrage de la consommation. On peut considérer la consommation globale à un niveau stable, à condition qu'elle soit rééquilibrée. L'excédent de consommation est un phénomène d'abord qui conduit au gaspillage, qui conduit au gâchis, qui conduit l'industrialisation de l'alimentation et de la fonction alimentaire. Tout ceci est périlleux. Donc, effectivement, moi qui appartiens à une génération où on a tant vanté la croissance appartient à un moment de l'histoire économique, elle appartient au moment de l'émergence et du décollage. Il faut quand même voir ce que sont les chiffres des pays émergents et ce que sont les nôtres. Il faut s'habituer à vivre avec des chiffres de croissance faibles. Je me suis dit, je n'irai pas plus loin car je ne suis pas économiste.
Bonjour.
Bonjour.
Vous parliez des problèmes causés par la spéculation sur les denrées alimentaires. Est-ce qu'il y a une avancée ou un mouvement vers une réglementation de ces spéculations ou rien n'est fait au niveau des institutions internationales, par exemple ?
Non, ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait non seulement protéger, mais rétablir l'agriculture de proximité. Ça, c'est quelque chose que nos amis chinois ont parfaitement compris. Une ville aussi énorme, gigantesque que Pékin, dispose d'une prestation par une agriculture de proximité, voire interne à la ville de Pékin, qui est absolument fabuleux. Le même phénomène, vous le trouvez à La Havane. Vous le retrouvez dans un certain nombre de cités qui ont tenté le pari, justement, d'un maintien soutenu, politiquement soutenu, de l'agriculture de proximité. C'est absolument indispensable. Pourquoi ? Un, pour assurer la survie d'une partie importante de la population. Les pays du Sud se caractérisent quand même par un secteur primaire qui est très développé, donc il faut le maintenir. Sinon, les populations rurales que l'on voit se déplacer vers les villes sont dans une situation absolument épouvantable. Hein. Les sous-prolétariats urbains à Nairobi, au Caire, à Casablanca, à Lagos, etc., viennent directement de cette agriculture qui meurt, hein, qui meurt. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, bah, vous l'avez suggéré dans votre question, c'est que supprimer l'agriculture de proximité, c'est introduire dans les coûts la circulation et effectivement les coûts de circulation des denrées alimentaires. Troisièmement, une question de santé publique, c'est-à-dire effectivement, plus vous êtes proche de vos ressources alimentaires, moins interviennent d'éléments perturbateurs de l'hygiène des produits que vous consommez. Et puis, quatrièmement, c'est aussi une question de rééquilibre écologique global de la planète, c'est-à-dire le maintien d'un secteur rural dans les pays du Sud, au moment où l'urbanisation que connaît les pays du Sud, dont on nous parle presque jamais, mais c'est pourtant fondamental. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les taux d'urbanisation ont décollé de manière aussi forte. Hein, je veux dire, c'est le Caire qui atteint 16, 17, 18 millions d'habitants, c'est quelque chose d'absolument insoutenable par n'importe quel pays du monde, quel que soit son niveau de développement économique. Donc tout ceci, effectivement, place ce problème du sauvetage de l'agriculture de proximité en tête des exigences politiques. Seulement, alors ça c'est tout un versant dont on n'a pas pu parler, moi qui m'intéresse beaucoup en tant que politiste, c'est que la nature des États en place dans le Sud fait que l'intérêt de cette petite oligarchie au pouvoir est d'accélérer le phénomène d'urbanisation. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que c'est une bonne façon de laminer les autorités traditionnelles toutes les structures traditionnelles de pouvoir que vous trouvez dans les pays du Sud. Deuxièmement, c'est une façon aussi de créer les conditions de mobilisation politique, sauf que, effectivement, ces gens-là ont oublié que ce sont les mouvements islamistes radicaux qui tentent à l'emporter dans la contre-mobilisation, parce qu'on a simplement oublié une chose, c'est que cette population, elle crèvera pas de faim docilement. C'est ça le problème. Il ne faut jamais oublier que les frères musulmans sont nés dans le delta du Nil, qui est la région la plus peuplée du monde musulman, et la corrélation est presque absolue entre densité urbaine et succès des mouvements islamistes. Alors, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas, parce qu'on dit n'importe quoi, notamment sur TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, etc. J'ai dit islamistes et frères musulmans, je n'ai pas dit salafiste, et quand je dis salafiste, je n'ai pas dit djihadiste, et quand je dis djihadiste, je n'ai pas dit djihadisme violent. Que les choses soient claires aussi de ce point de vue-là.
Bonjour. Il me semble me rappeler que dans l'ONU, il y a une partie où effectivement ils sont en train, ils veulent, je ne sais pas, se distinguer de la ZEN qui a échoué avant, de prendre en compte pour éviter les guerres ou pour que lorsque la paix est revenue, maintenir un état de paix, prendre en compte les questions des droits de l'homme, de l'économie, de la société. Voilà. Donc vu que vous aviez dit que rapidement il n'y avait pas vraiment de mention là-dedans, je voulais savoir si c'était un leurre, qu'est-ce qu'ils voulaient faire réellement derrière. Voilà.
Alors, merci beaucoup, d'abord parce que ça, c'est vraiment mon domaine, donc je me sens plus à l'aise pour répondre. Deuxièmement, parce que c'est un point extraordinairement important, je ne l'ai pas trop traité, parce que si je l'ai traité comme tel, les inégalités auraient disparu de l'affiche. Plusieurs choses. Vous avez un Français, Cocorico, pas tous les jours, qui a été le premier homme au monde à poser cette question. Cet homme est complètement oublié aujourd'hui. Il s'appelle Léon Bourgeois, président du conseil RADSOC de la Troisième République. Rien d'excitant a priori, n'est-ce pas ? Mais Léon Bourgeois a écrit en 1907 un ouvrage qui s'appelle « Pour une société des nations ». Et il nous dit, on est avant la Première Guerre mondiale, il nous dit, d'abord qu'il faut créer la société des nations, très bien, mais surtout il nous dit, attention, très vite, très bientôt, les relations internationales ne pourront plus être régulées par la puissance ni par les armes, mais devront faire face à des grandes questions sociales mondiales. Ça a été le premier à avoir l'intuition de l'importance de ces enjeux sociaux mondiaux. Et il nous dit, l'opinion publique internationale va de plus en plus décider pour nous, nous gouvernants, à notre place. Bon, c'est quand même pas mal comme capacité d'anticipation sur ce qui s'est passé par la suite. Après, il y a eu une longue traversée du désert. Comme je disais tout à l'heure, une décolonisation ratée. En 1994, sort un ouvrage signé par un très grand monsieur qui est disparu la semaine dernière et auquel je voudrais rendre hommage, qui est l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali, un grand diplomate. Et Boutros-Ghali était à l'époque secrétaire général des Nations Unies et a écrit un ouvrage intitulé « Agenda pour la paix ». Et dans cet ouvrage, Boutros Ghali soulève un lièvre. Il dit « La cause principale des guerres, désormais, c'est l'injustice sociale. » C'est l'injustice sociale. La déléguée américaine au Conseil de sécurité aux Nations Unies, Madame Madeleine Albright, vous vous souvenez peut-être de ses chapeaux et de ses broches, elle n'a pas laissé grand-chose d'autre dans l'histoire. Eh bien, Madame Albright était tellement mécontente de cette phrase qu'elle a empêché que M. Boutros-Ghali ait un deuxième mandat. C'est le seul secrétaire général des Nations Unies à ne pas avoir été réélu. Pourquoi était-elle furieuse ? Parce qu'elle a très bien compris, alors ça c'est vraiment le sujet numéro un de la diplomatie mondiale aujourd'hui. Si les États se persuadent que la cause numéro un des guerres, c'est l'injustice sociale, ben, un, il va falloir qu'ils acceptent une redistribution au niveau mondial, et deux, il va falloir qu'ils acceptent que l'on s'ingère dans leur politique budgétaire, ce qui est inadmissible dans un cas comme dans l'autre. Tant que la diplomatie consistera à réduire le nombre de fusées ou à négocier des cessez-le-feu, les États ne se sentiront pas dépossédés de leurs privilèges. Lorsqu'il s'agira d'œuvrer collectivement et communément au progrès de l'humanité, là, ça, c'est une autre paire de manches. Manque de bol pour les États-Unis, le successeur de Boutros Ghali en a rajouté une louche. Je vous invite tous à lire cette magnifique déclaration du millénaire de Kofi Annan. Kofi Annan qui, en 2000, va expliquer que le multilatéralisme mourra s'il n'est pas social. Je pense que rien de plus intelligent a jamais été dit dans l'histoire diplomatique contemporaine. C'est-à-dire savoir construire des relations internationales en fonction des enjeux sociaux, c'est-à-dire des enjeux humains. Alors, cette approche des conflits, vous avez raison, madame, progresse. C'est-à-dire que vous avez, à l'intérieur des Nations Unies, des gens sincèrement convaincus de la chose. J'ai rendu hommage tout à l'heure au PNUD. Le PNUD joue dans la résolution des conflits un rôle qui est très important. Localement, le PNUD et l'OCHA qui coordonnent l'action des ONG sur le terrain. Parce que vous savez, le drame, quand il y a des guerres quelque part, c'est qu'il y a plein d'ONG et plein d'agences des Nations Unies qui se trouvent sur le terrain, mais qui ne collaborent pas ensemble. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, Oxfam, Médecins du Monde, le CCFD, le PNUD, tout ça, bah, ce sont des organismes indépendants les uns des autres. Et donc, OCHA, c'est cette organisation pour la coopération des agences humanitaires, comme son nom l'indique, qui est justement faite pour... de plus en plus intégrer le développement social comme mode de solution du conflit, et non seulement mode de solution, et ça rejoint aussi un point que vous abordiez, mais comme mode de gestion post-conflit. Parce que le grand problème des guerres, c'est bien entendu d'arrêter les violences, on le voit en ce moment en direct avec la question syrienne, n'est-ce pas ? Mais une fois qu'on a réussi à franchir ce cap, rien n'est fait. Je vous parlais tout à l'heure des milices qui embrigadaient les enfants soldats. Comment démobiliser, désarmer, démobiliser et réintégrer, c'est le fameux programme DDR des Nations Unies, tout ce monde qui vivait de la guerre. Il ne faut jamais oublier, quand on parle de la guerre aujourd'hui, que la guerre est, dans les pays qu'elle frappe, le principal pourvoyeur de protection sociale et d'autorité politique. C'est malheureux de dire ça, mais c'est comme ça. Et il faut voir le poids de l'économie de guerre, mariée à tout un tas de trafics illicites. Narcotrafic, trafic des êtres humains et tout ce qui s'ensuit. Donc tout ça, pour vraiment atteindre la paix, suppose un énorme travail de démantèlement, de détricotage. Comment réintégrer tous ces enfants soldats ? Mais jamais je n'entends un chef d'État nous parler de ça. Regardez, dans notre débat politique en France, c'est quand même à désespérer. On nous parle de trucs qui n'ont strictement aucun intérêt. Et ça, les 500 000, 600 000 malheureux gosses dans le monde qui sont enfants soldats, qui vous en parle ? Est-ce que vous avez entendu un dirigeant politique français vous parler de ça ? Ils ne le savent pas, même. Bon, je me suis un peu énervé, là. Mais vous avez compris que ce n'était pas contre vous. C'était une sainte colère.
Moi, je voudrais vous poser la question.
Je ne vous vois pas. Pardon.
Oui, alors, Étienne Chouard cherche la cause des causes. Hervé Kempf nous dit « L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie ». Est-ce que vous pouvez commenter, s'il vous plaît ?
L'oligarchie, ça suffit ?
Oui, c'est le bouquin d'Hervé Kempf. Enfin, oui. Un des bouquins.
Oui, oui. Ben, moi, je peux que souscrire. D'abord, je me sens très proche d'Hervé Kempf, que je respecte beaucoup. Et cette phrase me paraît frappée du bon sens. Je vais me faire un peu de pub. Moi, j'ai écrit un ouvrage, alors c'est une pub gratuite puisqu'il n'est pas là, cet ouvrage-là, qui s'appelle « La diplomatie de connivence », où j'ai essayé d'expliquer que la connivence, je ne sais pas si c'était la cause des causes, mais c'était en tous les cas la matrice qui permettait aux États du club, c'est-à-dire du G7 en réalité, qui est devenu, comme vous le savez, le G7 plus 1 et qui maintenant est le G7 plus 1 moins 1. C'est difficile à suivre, mais bon, ainsi. C'est cette connivence qui leur permet de mener le monde. C'est-à-dire, c'est grâce à la connivence du G7 que on a absous les États-Unis du million de morts qu'ils ont fait en Irak. C'est à cause du G7 que les 6 autres membres ont le droit de faire à peu près ce qu'ils veulent sur la scène internationale. Et si vous n'êtes pas du G7, eh ben évidemment, vous êtes traduit devant la Cour pénale internationale. Voilà. Bon, en gros, c'est ça. C'est peut-être un peu simplifié, mais pas tellement. Donc, effectivement, je crois que nous vivons à tous les niveaux une dérive oligarchique. Nous le vivons à l'intérieur de notre démocratie. Notre démocratie est complètement perturbée par les dérives oligarchiques, qui fait que c'est un petit nombre de gens, toujours les mêmes, qui gouvernent. Bon, un jour, on nous dit que la gauche a remplacé la droite, mais on trouve les mêmes dans les cabinets ministériels, les mêmes à la tête des ministères, puis ils font la même politique, n'est-ce pas ? Il y a un remaniement ministériel, on voit revenir des gens, mais certains qui avaient 30 ans, 40 ans d'âge, que je croyais au Muséum d'histoire naturelle, mais qu'on a été recherché. Enfin, un élu qui a été battu dans le Tarn-et-Garonne, mais qu'on a réexhumé pour être ministre de je sais pas quoi. Enfin, c'est extraordinaire, ce cancer oligarchique que nous vivons, qui se retrouve à travers les médias, c'est-à-dire que seule la pensée d'un petit nombre peut être exprimé dans les médias, etc. Moi, je faisais un chat mensuel dans Le Monde. Quand j'ai dit que j'avais des réserves sur la guerre au Mali, on m'a viré. Madame Nouguérède m'a viré. Bon, tout un tas de choses comme ça qui, je pense, portent à réfléchir. Mais là où vous avez tout à fait raison, et où Hervé Kempf a tout à fait raison, c'est que effectivement, cette oligarchie est passée au niveau mondial. C'est-à-dire, il y a en gros, qu'est-ce que c'est que le G7 ? Le G7, moi, je l'appelle devant mes étudiants le G-186. C'est-à-dire, c'est l'exclusion de 186 pays. Alors, on nous dit, Sarkozy avait dit à propos du G20, qui comprend 19 États, d'ailleurs. Il avait dit, oh, mais ça fait rien s'il n'y en a pas d'autres, puisque le G20, c'est 90% du PIB mondial. Ben oui, mais c'est 0,5% des souffrances mondiales. Et une chose, et moi, est au centre de ma réflexion, c'est que si vous n'associez pas les acteurs locaux aux guerres, aux conflits locaux, vous ne pourrez jamais les résoudre. Vous savez, j'adore ce proverbe Bambara qui dit « On ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. » Eh bien, c'est ça le problème des relations internationales aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a un problème en Syrie, oh, ben, il y en a un qui, en Occident, a trouvé la solution, pas, et qui va l'imposer. Un peu comme le général Gouraud qui est arrivé en 1920 au Liban et qui a dit, tiens, c'est un pays multiconfessionnel, c'est un peu comme la Suisse, donc on va faire une constitution helvétique pour le Liban. Je ne suis pas sûr, moi, après 40 ans de métier, que ce soit la bonne solution. Voilà, alors deuxième page de publicité, je sors la semaine prochaine un bouquin qui s'appelle « Nous ne sommes plus seuls au monde ». Alors, c'est normal qu'il ne soit pas là parce qu'il n'est pas encore sorti, mais « Nous ne sommes plus seuls au monde », c'est pour expliquer que désormais, quand on veut raser la tête de quelqu'un, mieux vaut qu'il soit là.
Oui, bonjour, je voulais savoir quel était votre point de vue sur l'apparition des nouveaux acteurs en fait, de la diplomatie mondiale, que ce soit les régions, les villes ou des acteurs subétatiques. Et quel rôle ils peuvent jouer justement sur la réglementation de son monde, de toutes les problématiques dont vous avez parlé ?
Très bonne question. Mais on est là jusqu'à 7h du soir. Non, je vous soupçonne de savoir la réponse. mais vous avez tout à fait raison, ça c'est le paramètre fondamental du jeu diplomatique contemporain. Les acteurs les plus proactifs ne sont plus des États. Regardez l'horreur qu'est le conflit syrien. J'espère de tout mon cœur, et je crois qu'il y a de bonnes raisons d'espérer, que nous allons atteindre un cessez-le-feu. Mais ce qu'on dit jamais, c'est que même si le cessez-le-feu est imposé en Syrie cette semaine, les jours qui viennent, on n'en sera qu'à la demi-finale. Parce que la finale, ça sera le reste du monde contre Daesh, qui n'est pas inclus dans cessez-le-feu. Et pourquoi Daesh n'est pas inclus dans cessez-le-feu ? Parce qu'il ne veut pas être inclus dans cessez-le-feu. Et pourquoi Daesh ne veut pas être inclus dans cessez-le-feu ? C'est parce que Daesh n'est pas un État, contrairement à ce qu'on dit. C'est un entrepreneur de violence qui ne doit sa survie qu'à la guerre. Quand des États qui font la guerre arrêtent de faire la guerre, ils peuvent faire autre chose que la guerre. Ça a été notre histoire pendant des siècles et des siècles. Lorsqu'un entrepreneur de violence ne fait plus la guerre, qu'est-ce qu'il fait ? Il pointe au chômage. C'est-à-dire que si Daesh n'a plus la guerre à faire, c'est les statistiques encore de l'ANPE qui vont se trouver aggravées. Le gros problème est dès lors de savoir comment travailler avec ce genre d'acteurs. Et je n'ai pas peur de dire travailler, parce que je ne supporte pas les gens qui disent on ne négocie pas avec. Moi, je suis désolé, il y a une prise d'otage dans un supermarché ou dans une banque, eh ben, la police négocie avec les malfaiteurs, quitte à les flinguer après. Mais je veux dire, la négociation, c'est le béaba de la gestion de la violence. C'est comme ça. Bon. Le problème, c'est qu'on ne sait pas faire avec ce genre d'acteurs. Parce que toute notre grammaire, notre droit international est fondée sur l'idée des rapports interétatiques. Quand il n'y a plus d'État, on est perdu. Bon. Alors ça, c'est un aspect. C'est l'aspect peut-être le plus violent, le plus dramatique. Mais ça rejoint la question que posait tout à l'heure monsieur. C'est-à-dire il y a aussi des acteurs redoutablement importants, comme les acteurs financiers, comme les firmes multinationales. N'oubliez pas qu'une firme multinationale a un chiffre d'affaires qui est souvent supérieur au PIB d'un État moyen, moyennement important. Exxon a un chiffre d'affaires supérieur au PIB du Danemark. Et le Danemark est peut-être un pays pauvre puisqu'il veut piquer les bijoux des réfugiés. Bon, mais quand même, c'est pas le pays le moins développé qui soit. Merci.